L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous partons en Birmanie, où depuis 3 ans, les peuples s'opposent à la junte au pouvoir. Avec Adrien Rovel, chercheur indépendant établi dans le pays, nous allons nous pencher sur les enjeux qui se posent à la résistance et voir comment depuis octobre dernier, les guérillas ont coordonné leurs attaques pour mener une offensive décisive. Les villes perdues par l'armée birmane se comptent désormais par dizaines. Rembobinons. Le 1er février 2021, l'armée birmane prend le pouvoir par un coup d'État éclair. Depuis plusieurs mois, ses chefs contestaient la victoire de la National League for Democracy aux élections législatives et faisaient monter la pression. Première ministre emblématique depuis 5 ans et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi est jetée derrière les barreaux avec ses ministres et les cadres de son parti. C'est la fin d'une décennie de transition républicaine et le retour à la dictature militaire qui avait déjà régné sans partage durant un demi-siècle, de 1962 à 2010. Mais dans l'intervalle, une génération a vu s'entrouvrir la porte d'une certaine liberté politique. Alors le coup d'État déclenche l'insurrection. Des millions de personnes descendent dans les rues en chantant. Des grèves sont déclenchées et des milliers de fonctionnaires font défection dans un vaste mouvement de désobéissance civile. Durant 4 semaines, la pression monte sur les militaires. Les premières sanctions tombent et la junte est isolée à l'international. On écoute Adrien Rovel.
Dans la foulée du coup d'État de février 2021, on a d'abord eu un mois de manifestations monstres dans les rues, tous les jours, dans les rues de Rangoon, dans les rues de toutes les villes du pays. Il y avait littéralement des millions de personnes qui manifestaient pour la fin du coup d'État, le retour de la démocratie. Et pendant un mois, globalement, l'armée est restée l'arme au pied. Il y a eu quelques débordements, mais ça n'a pas dérapé outre mesure. Et puis le basculement a eu lieu fin février, quand l'armée s'est véritablement mise à tirer dans la foule. Et donc le mois de mars 2021 a été très violent, très sanglant.
Le 28 février, la junte montre son vrai visage. Elle fait ouvrir le feu sur les manifestants et manifestantes rassemblés à Rangoon, la capitale économique. Un mois de guérilla urbaine commence, durant lequel les jeunes munis d'armes artisanales tentent de faire face à une armée entraînée. Intenable. Le 27 mars, jour de la fête nationale des forces armées, 145 civils sont tués. C'en est presque fini de la contestation ouverte dans les grandes villes. La résistance entre alors en sourdine. D'une part avec la démission des fonctionnaires, le boycott des entreprises d'État, le refus d'envoyer les enfants à l'école.
On a eu des formes de résistance pacifique qui ont émergé, assez discrètes mais néanmoins importantes. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle le mouvement des CDM, le Civil Disobedience Movement, c'est-à-dire tous les fonctionnaires qui se sont mis en retrait parce qu'ils refusaient de servir un gouvernement militaire et illégitime. On a eu une administration qui s'est pas mal dépeuplée à travers finalement tous les ministères, beaucoup dans l'éducation et la santé, mais aussi dans l'énergie, l'administration fiscale, etc. Donc l'une des caractéristiques de cette révolution de printemps, c'est que c'est véritablement une révolution 2.0. C'est une révolution décentralisée, dématérialisée, qui utilise à plein les réseaux sociaux, qui utilise à plein la diaspora birmane à travers le monde, avec des levées de fonds à travers le monde entier. On a eu beaucoup, les crypto-monnaies ont été utilisées pour soutenir la résistance ou pour soutenir les fonctionnaires en désobéissance civile, pour soutenir les écoles parallèles, les réseaux de santé extra-gouvernementaux. On a eu en fait une résistance non seulement armée, mais aussi une résistance pacifique, une résistance citoyenne, très moderne, très innovante et qui, je pense, est assez exemplaire de ce point de vue-là.
Et d'autre part, toute une frange de la jeunesse quitte les villes pour migrer vers les régions périphériques du pays. Certains, certaines demeurent toutefois et combattent en clandestinité. En avril 2021, les premiers attentats à la bombe secouent les centres urbains. Il y en aura jusqu'à 15 par jour durant la première année du nouveau régime, la plupart visant des bâtiments vides ou des personnes ciblées, comme des hauts fonctionnaires qui sont restés fidèles à l'État. Les rebelles ne voulant aucune victime collatérale pour ne pas entamer l'énorme soutien populaire qu'ils se savent acquis. Pour bien comprendre tous les enjeux du conflit, il faut savoir que la Birmanie est un pays morcelé. Au sein de ses 55 millions d'habitants et d'habitantes cohabitent 135 peuples, dont certains étaient en conflit armé ouvert avec le pouvoir central avant même le coup d'État. Le centre du pays, au paysage de basses terres et de plaines, est occupé par la majorité Bamar, qui constitue 68% de la population. C'est la zone la plus densément peuplée, et c'est aussi là où l'on retrouve la nouvelle capitale Naypyidaw et le principal centre urbain, Rangoon. Les périphéries montagneuses sont-elles peuplées d'une mosaïque de peuples, qui conservaient jusqu'en 1947 une relative autonomie, y compris sous la domination coloniale anglaise. À partir de 1950, alors que la majorité Bamar est au pouvoir, les différents peuples des montagnes réclament l'instauration d'un fédéralisme. Il s'agit principalement des Karen au sud-est, des Shan et des Kachin qui sont installés à l'est et au nord près de la Chine, puis des Chin et des Arakan à la frontière de l'Inde et du Bangladesh, à l'ouest.
La question de l'unité de la Birmanie, la question des minorités ethniques s'est toujours posée. Avant même l'indépendance, il y a eu des mouvements de guérilla ethnique qui ont émergé, avec notamment l'assez célèbre Karen National Union, qui est la guérilla la plus ancienne du monde, lancée en 1947. Et donc, après l'indépendance, il y a eu une courte période, une décennie, on va dire, de démocratie, mais troublée, perturbée. En 1962, l'armée birmane, qu'on surnomme la Tomado, s'empare du pouvoir et va s'agripper au pouvoir jusqu'en 2010. Pendant cette période de dictature militaire, les périphéries du pays ont toujours été secouées par des mouvements sécessionnistes qui refusaient finalement l'appartenance à cette Birmanie qui ne faisait guère qu'à de leur particularisme ethnique, de leurs propres revendications. Et toutes ces guérillas ethniques luttaient pour une sorte de fédéralisme, pour une sorte de décentralisation birmane.
L'armée accepte de finalement lâcher du lest en 2010, mais la nouvelle constitution lui assure de conserver un quart des sièges au Parlement et trois ministères, l'intérieur, la défense et les zones frontalières. Un premier gouvernement civil fait passer un certain nombre de réformes, légalisation des syndicats, assouplissement de la censure, libération de prisonniers politiques, puis l'opposante historique, Aung San Suu Kyi, est élue en 2015. Malgré les difficultés et les promesses non tenues, malgré le fait qu'elle ait fermé les yeux sur le génocide des musulmans Rohingyas perpétré par l'armée, elle demeure l'incarnation d'un espoir inédit en Birmanie. C'est ainsi que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, remporte à nouveau les élections en 2020. Or, l'armée sent que ce nouveau mandat pourrait détruire son leadership et reprend donc le pouvoir par la force.
La décennie 2010 a véritablement été une période de bouleversement pour la Birmanie. Le pays s'est ouvert aux investissements étrangers, le pays a beaucoup changé, s'est beaucoup modernisé, une classe moyenne est apparue et surtout, on a toute une nouvelle génération qui a grandi dans un cadre quasi démocratique et qui a véritablement pris cette habitude-là, qui a considéré que c'était désormais essentiel dans leur vie. Et ça, c'est véritablement la première fois que ça se produit depuis les années 50. Donc, lorsque la junte opère ce coup d'État le 1er février 2021, il ne s'attendait pas à ce que la jeunesse birmane descende dans la rue avec une telle force, parce qu'ils avaient complètement sous-estimé cette jeunesse qui a grandi dans la démocratie et qui refusait absolument de s'en voir privée du jour au lendemain.
Lorsque la répression devient sanglante, la jeunesse qui fuit les grandes villes rejoint en fait les EOA, les organisations armées ethniques, ces guérillas issues des minorités qui vivent dans les montagnes. Certaines sont déjà en conflit ouvert, c'est le cas dans les Tachan à l'est, c'est le cas des Karen au sud-est ou plus récemment des Arakan à l'ouest. D'autres, comme la CNA, armée du peuple Chin à la frontière indienne, étaient en cessez-le-feu précaire avec le pouvoir, notamment parce qu'Aung San Suu Kyi avait fait adopter une loi pour protéger les peuples indigènes et avancer vers un processus de paix. Avec ce coup d'État, nombre de cessez-le-feu de ce type volent en éclats. Nous sommes en avril 2021 et l'ultime bataille, comme la nomment les Birmans et les Birmanes en lutte, commence. Étudiants, profs, ingénieurs à peine diplômés, jeunes artisans ou garagistes, quelles qu'étaient leurs occupations et leurs perspectives de vie, des centaines de milliers de jeunes sont depuis 3 ans engagés dans les groupes armés. Très vite naissent également les forces de défense du peuple, les PDF, sous l'égide du gouvernement d'Union nationale en exil. Les PDF mènent les premières embuscades contre des convois de l'armée en plein cœur du pays, dans les plaines, là où la junte ne s'attend justement pas à être prise pour cible.
Chose intéressante, alors que la résistance armée avait toujours été concentrée dans les périphéries montagneuses et au sein des minorités ethniques de Birmanie, là on assiste à un véritable tournant, c'est-à-dire que la résistance armée apparaît aussi dans ces vastes basses terres de peuplement bamar. Et ça, c'est assez nouveau. C'est quelque chose auquel, encore une fois, la junte n'anticipait pas vraiment. Et on a donc des foyers de résistance qui émergent à travers tout le pays.
Aidés par les guérillas ethniques qui fournissent matériel et dispensent formation militaire, les PDF se développent donc dans le centre du pays et mènent des actions de sabotage et des escarmouches contre les forces de sécurité de l'État, moins présentes ici que sur les fronts périphériques. Ce déploiement de la résistance, là où vit la majorité bamar, et le grand soutien de la population qui l'accompagne, est déterminant. L'armée birmane, qui se rêve et se proclame gardienne de la nation et de la domination bamar qu'elle considère légitime, se retrouve soudainement seule. Elle est désormais l'ennemi commun des différentes composantes ethniques du pays, y compris de cette jeunesse bamar et des aînés qui la soutiennent. Sa propagande vole donc en éclats, d'autant plus lorsque ses soldats, également bamar en grande majorité, doivent ouvrir le feu dans leur propre village. Beaucoup désertent. En outre, la junte ne peut plus s'appuyer sur cette zone centrale jadis extrêmement stable qui faisait sa force, tout en devant gérer tous les fronts à la fois, ce qui ne lui est jamais arrivé. Sa force principale demeure finalement l'aviation. À tout moment et de manière intensive, elle bombarde des territoires jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines, soit parce qu'ils sont sous territoire rebelle, soit parce qu'elle veut punir ceux et celles qui soutiennent la résistance.
L'armée birmane réagit comme elle sait, comme elle a toujours réagi, comme elle a toujours pensé que ça marchait, c'est-à-dire par une violence indiscriminée, une violence de grande ampleur vis-à-vis des populations civiles, par un incendie systématique des villages, histoire de priver la résistance de tout support populaire, de tout soutien logistique, de toute provision alimentaire, de tout financement, etc. Et on a eu une poussée de la violence très rapide au cours de l'année 2021 avec une résistance qui émergeait un peu partout en Birmanie et une junte militaire qui réagissait par une violence disproportionnée à travers tout le territoire.
Durant 2 ans et demi, les combats font rage et les différents groupes armés progressent. Lentement, certes, et butant sur les plus grandes villes ou ne pouvant conserver longtemps certaines positions à cause des bombardements incessants. La junte, elle, réplique de toutes ses forces, mais contre toute attente, elle s'affaiblit.
Pour résumer, on a plusieurs fronts qui s'ouvrent en même temps. On a un moral de l'armée birmane qui s'effondre, on a une remise en question de l'éthos militaire birman. Et puis on a aussi un conflit qui met en lumière les faiblesses structurelles de l'armée birmane, c'est-à-dire une armée gangrénée par la corruption, par le mensonge et l'opacité, écrasée par une hiérarchie extrêmement verticale basée sur la terreur. On a donc des sous-officiers sur le terrain qui mentent sur leurs pertes, sur les défis auxquels ils font face, parce qu'ils n'osent pas révéler la réalité de terrain à leurs officiers. Les chefs d'état-major, en fait, ont une vision assez imparfaite de ce qui se passe sur le terrain, ce qui n'est pas vraiment optimal pour prendre les bonnes décisions.
Dès le départ, les militaires tentent de couper toute possibilité de s'informer. Internet et le téléphone sont coupés, les frontières sont fermées, l'électricité est partout rationnée. C'est alors que l'inventivité des rebelles parle.
En face, on a une résistance étonnante qui, en fait, déjoue beaucoup de pronostics. Alors certes, c'est une résistance peu organisée, mal coordonnée, mal équipée, sous-financée, mais c'est une résistance extrêmement courageuse, extrêmement déterminée. Elle a des idéaux, alors que les soldats birmans n'ont plus vraiment d'idéaux. C'est une résistance qui croit en demain. Et puis, c'est une résistance qui est très largement basée sur ce qu'on appelle la génération Z. Une bonne partie de ces résistances sont nées dans les années 2000. C'est des gens qui sont connectés, qui sont très innovants, assez disruptifs. Et donc, c'est une résistance qui a su assez rapidement se fabriquer des pièces d'artillerie improvisées en utilisant des tronçons en acier qui provenaient d'antennes télécom dynamitées. Ils ont su donc rapidement disposer d'une artillerie improvisée, développer leur propre lance-roquette improvisée, d'ailleurs, qui leur éclate assez régulièrement la figure, mais qui représente une puissance de feu augmentée. Et puis, c'est les premiers, avant même les Ukrainiens, c'est les premiers qui ont développé une guerre par drone. Alors, au début, ils utilisaient vraiment des drones de loisirs, hein, comme vous et moi, pour larguer des explosifs improvisés contenus dans des tuyaux en PVC de basse qualité. Et puis, ils ont peu à peu su développer une véritable expertise dans ces drones. Et aujourd'hui, ils utilisent des drones agricoles, des gros drones qui font 1,50 m d'envergure, des hexacoptères assez lourds qui peuvent transporter et larguer plusieurs obus de mortier sur les positions adverses.
En important des composants électroniques de Thaïlande, les rebelles fabriquent leurs propres drones en matériaux de récup, en polystyrène et à l'aide d'imprimantes 3D. Puis les drones sont équipés de petites bombes et sont envoyés derrière les lignes ennemies. Dans Birmanie, l'armée des ombres diffusée sur Arte, Pai, fabricant de drones, explique.
Les drones sont en train de changer le visage de la guerre. On le voit sur les vidéos en Ukraine. Ils utilisent des drones pour lâcher de petites bombes sur leurs ennemis. Et j'ai vu que ça cassait le moral des troupes russes. Moi aussi, je veux casser le moral de nos ennemis. Je veux qu'ils craignent nos drones comme nous craignons leurs avions de chasse.
Bombes, roquettes, mortiers, tout ce qui ne peut pas être récupéré sur le champ de bataille est fabriqué de manière artisanale et uniquement financé par les dons de la diaspora birmane à travers le monde. J, ancien électricien devenu fabricant d'armes pour la rébellion, compte encore sur Arte.
Au niveau des armes, finalement, on est capable de rivaliser. Ce que la junte n'a pas, par contre, c'est notre détermination. On a commencé cette guerre avec des vieux fusils, mais on les a mis en échec. Parce que notre motivation est immense et qu'il y a une flamme qui anime chacun de nous. Maintenant que nous sommes capables de produire ces armes, je suis sûre que nous allons les battre.
Et tout ça, toute cette inventivité a été rendue possible par cette génération Z qui a trouvé des tutoriels en ligne, qui a su passer des appels Zoom avec des vétérans américains ou de n'importe quelle nationalité pour apprendre à fabriquer des explosifs, fabriquer des obus, fabriquer des mortiers improvisés, etc. Cette génération Z qui a su lever des fonds en ligne via les crypto-monnaies. Autre signe d'inventivité, la résistance dans des camps de fortune a réussi à se procurer des imprimantes 3D et puis créer ses propres armes légères par imprimante 3D. Et puis, ils ont su utiliser Starlink. Starlink est désormais assez largement utilisé dans les campagnes birmanes. Les terminaux Starlink traversent les frontières birmanes à travers l'Inde, la Thaïlande, etc.
Elon Musk, le propriétaire de Starlink, fait d'ailleurs payer très cher. 700 € l'antenne et 200 € mensuels pour permettre la connexion d'une soixantaine de téléphones. Maui, commandant d'une armée rebelle Karen, explique à Constantin Simon, réalisateur du reportage « En Birmanie, la jeunesse prend les armes contre la junte ».
Je dois payer cher pour ça, croyez-moi. Mais oui, on suit ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine. Même si la communauté internationale se désintéresse de nous, nous, on suit ce qui se passe ailleurs. Au moment du coup d'État, le jour où les généraux ont pris le pouvoir, leur première mesure pour nous oppresser a été de couper Internet et le téléphone. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Alors après la victoire, il y aura de l'électricité dans chaque rue. Même en plein cœur de l'obscurité, nous pourrons nous voir, nous pourrons communiquer et nous pourrons aller où l'on veut.
Donc, en 2022-2023, on avait deux courbes qui étaient en route vers le croisement. On avait une lente montée en puissance de la résistance et puis on avait une lente érosion de l'armée à cause principalement de ses faiblesses internes et puis tout simplement parce qu'elle était usée par ces embuscades incessantes de la résistance. Mais ces courbes ne se croisaient toujours pas. Le 27 octobre 2023, coup de théâtre auquel pas grand monde ne s'attendait, on a une coalition de trois guérillas ethniques, l'Alliance des Trois Fraternités, qui opère principalement dans le nord-est de la Birmanie, ce qu'on appelle l'État Shan. L'Alliance des Trois Fraternités lance une vaste offensive de grande ampleur contre l'armée birmane. Et là, surprise, l'armée birmane s'effondre. Ils abandonnent des centaines de positions, de camps. Et en l'espace de quelques jours, l'Alliance des Trois Fraternités prend des villes, y compris des villes stratégiques, des villes frontalières sur la frontière chinoise. Et pendant plusieurs semaines, en fait, l'armée birmane est sur le reculoir et cède du terrain encore et encore. L'Alliance des Trois Fraternités étaient extrêmement bien préparés. Ils avaient monté cette offensive dans le plus grand secret. Ils avaient, pendant des mois et des mois, accumulé des armes, des munitions, des recrues. Ils avaient constitué une véritable flotte de drones. Il y a eu véritablement des milliers de frappes de drones par l'Alliance des Trois Fraternités. Et ça, c'est quelque chose auquel l'armée birmane ne s'attendait pas. Et donc, pendant plusieurs semaines, l'armée birmane est vraiment sur le reculoir, mise en danger par l'Alliance des Trois Fraternités, cède du terrain. Et dans le même temps, eh bien, les autres groupes de résistance profitent de cette dynamique défavorable, de cet effet de sidération au sein de l'armée birmane pour lancer des offensives dans d'autres zones du pays. L'Arakan Army reprend l'initiative dans l'état d'Arakan, près de la frontière avec le Bangladesh. Dans l'ouest, sur la frontière indienne, on a la résistance dans l'état Chin qui prend plusieurs villes. Puis dans l'état Kaya, la résistance lance plusieurs offensives, notamment sur la capitale régionale Loaiko. Et depuis le 27 octobre et jusqu'au moment où on se parle, l'armée birmane ne semble pas véritablement réussie à se remettre dans le sens de la marche.
Erin Murphy, analyste pour le programme Asie du Centre pour les études internationales et stratégiques, explique sur France 24.
L'armée birmane n'est pas habituée à de telles pertes. La zone frontalière est une région très montagneuse avec peu de routes. Les camions qui transportent les ressources vers la Chine vont donc devoir traverser les zones rebelles, ce qui complique les choses pour la junte. La ville de Lokai était le centre régional de commandement de l'armée birmane. C'est donc un endroit où il y avait une forte concentration de troupes et de ressources militaires. Les rebelles vont pouvoir se battre avec ces armes sans avoir à les acheter au marché noir ou à les faire transiter depuis un autre pays.
Laymont Noon, révolutionnaire, ancienne prisonnière politique et militante féministe de la minorité ethnique Taong, réagit sur RFI.
L'opération est réussie car elle a été gardée secrète et parce que l'armée de l'Alliance démocratique birmane, l'armée de l'Arakan et l'armée de libération nationale Taong valorisent la coopération et la collaboration et se soutiennent mutuellement. L'opération vise à renverser le régime militaire, démanteler les réseaux de fraude en ligne à la frontière avec la Chine et surtout reconstruire l'État et protéger sa population. Toute la population, qu'elle ait la citoyenneté ou pas.
D'après elle, l'Alliance des Trois Fraternités bloque désormais la route principale qui relie Mandalay à la frontière chinoise et contrôle toute la zone frontalière.
La junte est en train de s'effondrer. L'opération du 27 octobre s'est propagée non seulement dans l'État Shan mais dans tout le pays. Les autres forces ont entendu parler du succès de l'opération, ce qui les a encouragés à s'emparer des bases militaires de l'État Kachin et la région Sagang. Les choses sont très différentes aujourd'hui.
C'est en bonne partie dû au fait qu'après quasiment 3 ans de guerre, l'armée birmane est exsangue. Elle a perdu beaucoup d'hommes au combat, elle a perdu énormément d'hommes qui ont tout simplement déserté. Les soldats se rendent bien compte qu'ils livrent une guerre perdue d'avance, qu'ils livrent une guerre contre un peuple entier. Donc le moral est extrêmement bas au sein des troupes birmanes. L'armée birmane est exsangue, manque d'hommes, manque de ressources, manque de financement. Elle ne peut compter que sur sa puissance de feu supplémentaire, que sur sa suprématie aérienne. Mais cette suprématie aérienne elle-même commence à s'éroder. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'avions qui se sont écrasés, puis les aéronefs birmans manquent de pièces de rechange, etc. Donc même l'arme aérienne commence à montrer des signes de faiblesse. Yeah.
La junte est donc désormais prise en étau entre trois fronts et contestée sur son propre territoire par la guérilla des forces de défense du peuple, bien équipée et qui s'estime forte de 60 000 soldats. Le 1er février, trois ans après le coup d'État, l'opposition appelle tout le monde à rester chez soi. Les rues de Rangoon et de Mogok sont désertes toute la journée. La junte, elle, manque de soldats. Déjà en décembre, elle rappelait les anciens combattants en menaçant de couper leur pension de retraite. En février, elle déclare la conscription obligatoire pour la jeunesse birmane.
Dans ce contexte-là, de grande vulnérabilité, l'armée birmane a sorti l'un des derniers atouts qui lui est resté dans la manche en proclamant la conscription le 11 février 2024. Et donc, du jour au lendemain, on a découvert dans les médias que l'armée birmane allait recruter les jeunes hommes entre 18 et 35 ans. Alors, ils ne recrutent pas tout le monde d'un coup, hein, c'est un recrutement par tirage au sort et ils visent le recrutement de 5000 nouveaux soldats par mois. Et donc ça, c'est un peu une espèce de pari de la dernière chance de l'armée birmane. C'est un pari un peu fou d'ailleurs, parce que l'écrasante majorité de la population birmane soutient la résistance. Admire, vous, une grande admiration à ces groupes de résistance, un peu de briques et de brocs, qui vivent dans des conditions spartiates, dans des huttes dans la jungle, mais qui se battent avec courage. D'un coup d'un seul, l'armée birmane les rafle, leur met une arme entre les mains et leur demande d'aller tirer sur ces résistants qu'ils admirent tant. Donc on peut se demander qu'est-ce qui va sortir de cette conscription. Est-ce que ces nouveaux conscrits vont se rebeller? Est-ce qu'ils vont faire défection avec armes, bagages et informations sensibles vers la résistance? C'est un peu l'incertitude. Là, on manque un peu de recul, mais on pourrait avoir l'espoir un peu fou que la conscription se retourne contre l'armée et qu'on ait des révoltes de grande ampleur dans les centres de formation, qu'on ait des unités entières qui fassent défection avec armes et bagages. Mais ça, c'est une vision peut-être un peu optimiste. Il ne faut pas sous-estimer l'immense pouvoir de manipulation de l'armée birmane. L'armée birmane sait très bien comment tirer bénéfice de soldats peu motivés, voire antagonistes. Ils savent aussi très bien que même si ces jeunes n'ont aucune envie de participer à la guerre, leurs familles restent vulnérables aux arrestations et aux représailles de la junte.
Rien ne prouve en tout cas que le recrutement forcé sauvera la junte. Toutefois, celle-ci est encore puissante de son économie parallèle, du contrôle qu'elle exerce sur les grandes villes, sur les ports et sur les aéroports. Certains, certaines se prennent pourtant à rêver de sa chute prochaine, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois. En mars, les rebelles estiment avoir repris 50% du territoire. Le 11 avril, face aux troupes Karen, les soldats de la junte doivent quitter leur position dans la ville stratégique de Miawadi, à la frontière thaïlandaise. Ti-ha, membre d'un commando de l'armée Karen, clame sur France 24
« La junte est puissante, mais nous sommes tous unis. Nous voulons une démocratie fédérale. Nous nous battons pour le futur, pour nos enfants, et nous nous battrons jusqu'à ce que les militaires tombent. »
Alors surgit la question de la Birmanie de demain.
Dans le scénario actuel de difficultés de l'armée, de revers successifs, on se prend à rêver d'une chute de la junte. On se prend à rêver d'une victoire de la résistance et puis d'une Birmanie post-conflit. Le scénario le plus optimiste, ça serait celui d'une espèce d'effondrement généralisé de la junte avec des unités entières qui se débanderaient, des villes entières qui tomberaient les unes après les autres en quelques jours. Le problème, en fait, c'est que la chute de la junte ouvrirait autant d'incertitudes qu'aujourd'hui. J'irais même jusqu'à dire que c'est le jour où la junte tombera que les vrais problèmes vont commencer pour la Birmanie. Parce qu'actuellement, tous les groupes de résistance combattent un seul et même ennemi. Et donc, on a beaucoup d'alliances de circonstances, on a une unanimité de façade entre tous les groupes de résistance. Le jour où l'ennemi en commun disparaîtra, les véritables désaccords vont apparaître au grand jour. Et ça soulève en fait beaucoup de questions, ça soulève énormément d'inquiétudes.
Comment alors préparer l'après? Comment s'entendre pour penser une Birmanie où chaque composante puisse trouver sa place? Comment, déjà aujourd'hui, recréer une société dans les zones libérées alors que la guerre civile dure et que les bombardements menacent toujours? Comment enfin espérer réparer le pays alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été assassinées, que 2 à 3 millions sont en exode et qu'une grande partie des forces vives a quitté le pays? Nous nous intéresserons à toutes ces questions dans le prochain épisode, toujours avec Adrien Rovel. C'était le 15e épisode de l'Actu des Oubliés, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Adrien Rovel qui nous a accompagnés tout au long de cet épisode, au doublage Jade et Fanchon, et en musique vous avez écouté Non-Profit Soldier de N3O, Our Cause de Revo Dicos et Dictators Must Die de Rap Against Junta. Pour les sources, vous pouvez vous rendre sur notre audioblog. Bonne journée, belle lutte, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Fight with the wrong generation. We fight for a real revolution. You ain't the one, but we the many. So cut the crap, cause you ain't shit. Now we count down from 10 to 1. No more prostrating to a shameless. We toss your love in the bin. Yes, man, just did we win. Yeah.